mois, retrouvez sur Fréquence Mistral Gap votre émission littéraire « Des coups au cœur » proposée par l'association Littera 05. Anne-Marie et Simone sélectionnent pour vous les bouquins des livres nomades et vous donnent l'envie de sentir l'odeur des pages et de vous évader au gré des lignes. Pour en savoir plus, allez sur le www.littera05.com.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui fait partie des livres nomades. Les livres nomades, les livres que Littera 05 met à la disposition des lecteurs dans des endroits insolites de la ville de Gap, par exemple des pharmacies, à l'office du tourisme, vous en avez à ELM, Échangeons le Monde, vous en avez dans les deux biocopes, enfin plusieurs endroits, donc ils sont à votre disposition gratuitement pour les lire. Ce sont des livres donc que nous choisissons, nous en choisissons 12 chaque année, 12 différents autour d'un thème. Alors cette année il s'agit des histoires de grands espaces. Et j'ai choisi de vous parler d'un livre américain qui s'appelle « Les étoiles s'éteignent à l'aube » de Richard Vagamez, qui a été traduit de l'anglais par Christine Raguet et qui est paru en 10-18. En 2016. Je vais essentiellement vous faire une lecture de quelques extraits de ce livre. Il fit sortir la vieille jument de l'enclos et l'amena jusqu'au portail qui donnait sur le champ. Il avait gelé la nuit précédente et ils laissèrent des traces derrière eux. Il enroula la longe autour de la traverse centrale de la clôture et s'en retourna vers l'étable pour y chercher la couverture de sel et la selle. Les traces faisaient penser à des taches d'encre dans la neige fondante, et il resta immobile un moment à essayer d'imaginer les scènes qu'elles représentaient. Il n'était pas du genre rêveur, même s'il aimait jouer le rêveur de temps à autre. Mais il ne voyait rien de plus que l'herbe ramollie et la gadoue du champ. Il secoua la tête en pensant à cette folie, traversa l'enclos et franchit à belles enjambées la béante gueule noire de la porte de l'étable. Le vieil homme était là, en train de traire la vache. Il tourna la tête lorsqu'il l'entendit et fit gicler un jet de lait de la mamelle. « Va te préparer ton petit déjeuner, » dit-il. « J'ai déjà mangé, » répondit le garçon. « C'est meilleur tout frais sorti du téton. »« Il y en a de meilleurs, des tétons. » Le vieil homme gloussa et se remit à traire. Le garçon resta un moment à le regarder, et quand le vieil homme commença à siffler, il sut qu'il n'y avait plus rien à dire, alors il alla dans la sellerie. Ça sentait le cuir, le liminant, l'air sec et poussiéreux du fourrage, et il se dégageait une légère puanteur de moisissure et de fumier. Il s'en imprégna en prenant une profonde inspiration, puis il extirpa la selle de son portant et la jeta sur son épaule. Il décrocha la couverture de son crochet près de la porte. Il emprunta le couloir, et là, il y avait le vieil homme, le seau de lait à la main. « T'as du pognon ?»« Un peu, assez, » répondit le garçon. « Il n'y en a jamais assez, » dit le vieil homme en posant le seau dans la paille. Le garçon immobile observait par-dessus l'épaule du vieil homme la jument en train de débusquer de l'herbe dans la gelée blanche près du piquet de clôture. Le vieil homme tripota son portefeuille en plissant les yeux pour voir dans l'obscurité. Il dégagea une liasse de billets et les tendit au garçon qui piétinait dans la paille. Le vieil homme fit bruisser le papier et le garçon finit par tendre la main pour prendre l'argent. « Merci, » dit-il. « Va te manger quelque chose dans un petit resto quand t'arriveras en ville. Ça sera mieux que la bouillie que je te sers. »« C'est de la bonne bouillie, n'empêche, » dit le garçon. « C'est gentil. Moi, j'ai été élevé au gruau et au sandwich de Saint-Doux. Sauf quand on avait du lard. » Et je fais encore assez bien la bannique. Le lapin d'hier soir, c'était quelque chose, dit le garçon, en fourrant les billets dans la poche de poitrine de sa veste de bûcheron. Je vais t'accompagner sur la piste un bout de temps. Tu vas le trouver malade, tu le sais, non? Le vieil homme le fixa d'un regard sérieux, et il remit le portefeuille dans la bavette de sa salopette. Je l'ai déjà vu malade. Pas comme ça. Je pourrai faire face. Faudra bien. Va pas croire que ça va être rose. Ça l'a jamais été. Mais quand même, c'est mon père. Le vieil homme secoua la tête et se pencha pour reprendre le seau, et lorsqu'il se releva, il regarda le garçon droit dans les yeux. « Tu l'appelles comme tu veux, seulement fais attention. Il ment quand il est malade. Il ment quand il ne l'est pas. » Le vieil homme hocha la tête. « Moi, j'irai pas. Je me contenterai de ce que j'ai eu, qu'il m'ait demandé de venir ou pas. Oh, ce que j'ai eu, c'est pas l'enfer. » Le vieil homme balaya du regard la grange vétuste, pinça les lèvres, plissa les yeux. « Elle a son âge, elle est délabrée, mais elle est à nous. Elle sera à toi quand je serai parti. » C'est plus que ce qu'il a jamais donné. C'est mon père. » Le vieil homme hocha la tête, fit demi-tour et commença à s'éloigner d'un pas lourd dans le couloir. Il devait changer le seau de main tous les deux pas, et quand il arriva à la porte coulissante au bout du couloir, il le posa et s'accrocha aux poutres à deux bras. La lumière agressa le garçon qui leva une main pour se protéger les yeux. La silhouette du vieil homme se dessinait à contre-jour dans la clarté du matin. « Cette jument n'est pas vraiment faite pour le froid. Faudra l'aménager pendant un moment. Après, talonne-la, elle avancera, dit-il. » « Il va mourir ?»« Impossible à dire, répondit le vieil homme. Ça n'avait pas l'air d'aller, mais tu sais, moi, je crois que ça fait un bout de temps maintenant qu'il est en train de mourir. » Il éteignit l'agressive lumière jaune et disparut. Le garçon resta immobile un instant à regarder. Puis il tourna les talons pour traverser l'enclos et poussa un hennissement devant la jument. Elle releva la tête, frissonna, et le garçon s'empressa de la sceller, de la monter et de traverser le champ au pas. Alors, qui est ce garçon ? L'auteur, je ne sais pas si je vous ai donné son nom, Richard Vagamez. L'auteur nous en fait un portrait, page 12. Il était grand pour son âge, efflanqué. Il avait un air sérieux qui semblait être le fruit de la morosité, et il était calme, si bien que certains disaient qu'il était mélancolique, songeur et grave. Il n'était rien de tout cela. Par contre, il avait appris à apprécier la solitude, et sa maîtrise des mots était brutale, directe, davantage celle d'un discours d'adulte que d'enfant. En conséquence de quoi, les gens trouvaient son silence bizarre, et ils l'évitaient. Son allure d'indien obstiné était perturbante, même chez un enfant de 16 ans. Le vieil homme lui avait très tôt inculqué la valeur du labeur et il était heureux de travailler. Il trouvait son bonheur dans le travail de la ferme et sa joie dans les chevaux ainsi que dans les étendues infinies des pays d'en haut. Il avait quitté l'école dès qu'il avait atteint l'âge légal. Il ne s'intéressait pas aux livres et là où il passait le plus clair de son temps libre, nul besoin de grandes idées, théories ou paroles, et s'il était taciturne, cela lui convenait. Il entendait les symphonies du vent sur les crêtes, et les cris stridents des faucons et des aigles étaient pour lui des arias. Le grognement des grizzlies et le hurlement perçant d'un loup contrastaient avec l'œil impassible de la lune. Il était indien. Le vieil homme lui avait dit que c'était sa nature, et il l'avait toujours cru. Sa vie, c'était d'être seul à cheval, de tailler des cabanes avec des épicéas, de faire des feux dans la nuit, de respirer l'air des montagnes, suave et pur comme l'eau de source, et d'emprunter des pistes trop obscures pour y voir, qu'il avait appris à remonter jusqu'à des lieux que seuls les cougars, les marmottes et les aigles connaissaient. Le vieil homme lui avait enseigné presque tout ce qu'il savait, mais il était vieux et trop rouillé pour monter sur une selle à présent, et depuis quasiment 4 ans, le garçon arpentait seul les terres. Des jours, des semaines parfois. Seul. Il n'avait jamais su ce qu'était la solitude. Même s'il y réfléchissait bien, il n'arrivait pas à donner une définition du mot. Il était en lui indéfini et inutile comme l'algèbre. La terre, la lune et l'eau établissaient la seule équation qui donnait de la perspective à son monde. Et il le traversait à cheval, revigoré et rassuré de sentir ses terres autour de lui, comme le refrain d'un hymne ancien. C'était ce qu'il connaissait, c'était ce qu'il lui fallait. On vient donc d'apprendre que ce garçon habite avec un vieil homme dans une ferme. Ça se passe au pied des montagnes rocheuses de Colombie-Britannique. Ce vieil homme, c'est celui qui l'a élevé, qui lui a appris à vivre dans ces montagnes rocheuses. Il lui a enseigné le sens de la nature. Il lui a appris à repérer les traces avant de le laisser faire toute autre chose. N'importe quel imbécile s'est tiré au fusil, lui disait-il. Mais si tu suis assez longtemps la piste d'un animal, tu arrives à connaître sa façon de penser, ce qu'il aime, quand il l'aime et tout ça. Tu ne chasses pas l'animal, tu chasses les traces qu'il laisse. Il durait apprendre à marcher. Le vieil homme lui montra comment se déplacer en se tapissant, ce qui était absolument infernal pour le dessus de ses cuisses. Au bout de 800 mètres, elle brûlait et la souffrance était vive, mais il sentait ses pas devenir furtifs. Il apprit à recourber son pied vers l'intérieur quand il le posait, afin d'éviter de faire craquer des brindilles ou de faire crisser le gravier, ce qui signifiait qu'il devait marcher les pieds en dedans. Le mouvement était difficile à maîtriser et il s'y appliqua. Il partait seul jusqu'aux montagnes pour s'entraîner soir après soir jusqu'à pouvoir couvrir tout le chemin aller-retour sans faire un bruit. Il apprit la différence entre être au vent et sous le vent et il en vint à comprendre comment le bruit était amplifié dans le monde silencieux et sombre de la forêt. Il apprit la prudence, il apprit la patience, il apprit la ruse. Ensemble, le vieil homme et lui suivaient à pas de loup les chevreuils en prenant une piste parallèle et ils parcouraient des kilomètres ainsi, en se tapissant. Furtif, c'est le mot qu'il apprit alors. Le vieil homme lui montra comment se glisser entre les arbres comme une ombre. Il lui enseigna à se déplacer avec une lenteur minutieuse, comme s'il ne bougeait pratiquement pas, si bien qu'avancer d'un centimètre paraissait prendre une année. Il apprit à s'envelopper d'ombre, à se pencher et à ramper entre les rochers et les billots, à se cacher en pleine vue. Il apprit à rester debout ou assis ou couché pendant des heures. Il pouvait ralentir sa respiration, si bien que même dans la fraîcheur hivernale, l'air qu'il expirait n'était pratiquement pas visible. Il apprit à rentrer en lui-même, à devenir un tout dans son immobilité et à oublier la nature même du temps. Puis il apprit à lire les signes, les traces contenaient toute une histoire. C'était ce que pensait le vieil homme. Chaque déplacement laissait l'histoire du passage d'une créature quand tu avais appris à le voir. Le garçon resta des heures à quatre pattes, à tâter du bout du doigt le tracé d'empreintes de pattes afin d'évaluer la sécheresse de la terre. Il apprit à humer. Il parvint à déterminer ce que les contours de l'empreinte disaient avec exactitude sur la façon de se déplacer de l'animal. Il reconnaissait les empreintes laissées par un animal qui trotte, qui bondit, qui marche, par un prédateur en chasse qui progresse à pas furtifs et par une proie recroquevillée et ramassée dans l'ombre. Et puis un jour, alors qu'il a 16 ans, il est appelé par son père, un vieil ivrogne menteur et dépravé. Il part donc à cheval vers la ville, où il va trouver son père dans une maison misérable. Son père est au bord de la mort, mais il a une requête à lui adresser. Il l'entraîne dans un bar, et voilà ce qu'il lui dit. J'ai un service à te demander. Il me semble que c'est toi qui me dois quelque chose. Oui, je sais. N'empêche que des fois, il faut donner pour recevoir. J'ai déjà donné $40. Je te parle pas d'argent, pas besoin d'argent pour ce truc-là. Quoi alors ? Je veux que tu viennes avec moi dans le pays d'en haut. Tu dois être plus saoul que je pensais. Je veux que tu m'emmènes dans ce territoire que tu as traversé, celui où tu as chassé toute ta vie. Il y a une chaîne de montagnes à 60 kilomètres d'ici. Au-dessus d'une étroite vallée, il y a une haute ligne de crête face à l'est. Je la connais. C'est là que je veux que tu m'emmènes. Pourquoi tu veux aller là-bas dans ton état ? Parce qu'il faut que tu m'enterres là-bas. Le garçon était assis, la tasse de café à la main, à mi-poitrine, et il éprouva le besoin de rire, se lever, sortir et retourner à la vieille ferme. Mais son père le fixait avec beaucoup de sérieux. Dans ses yeux, il vit de la douleur et quelque chose de plus subtil, du chagrin peut-être, du regret, ou un malheur réduit en miettes par les ans. Son père fit lentement pivoter la bouteille avec un pouce et deux doigts. « Tu tiendras pas 60 kilomètres, » dit le garçon. « T'es pas venu ici à pied des fois ? Et alors ? Je prendrai ton cheval. Et c'est moi qui marche alors ? Seigneur, je suis en train de mourir, il est où ton cœur ?» Il se détourna de son père et regarda de l'autre côté de la nappe d'eau noire. « Très bien, » dit son père, « tu vas pas le faire. » Le garçon tapa du plat de la main sur la table. Il se leva et le silence se fit derrière lui, car tout le monde avait cessé de parler pour observer. Il secoua la tête et se frotta le menton d'une main. Son père était assis penché vers l'avant, les coudes sur les genoux, et il alluma une autre cigarette. « Il y a des choses qu'il faut que je te dise, » lâcha-t-il d'un ton sans émotion, les yeux sur ses chaussures. « Pourquoi ? Pour t'aider à te sentir mieux ?»« Je pensais à toi. » »« Tu n'as jamais pensé à moi avant. »« Si, justement. »« Ouais, bon. » Il tendit le bras pour prendre la bouteille sur la table, la souleva et en étudia le niveau. Il renifla le goulot avant de la reposer et de donner un coup de pied dans la chaise de son père. Son père releva lentement la tête, le scruta de biais inquiet. Le garçon s'assit. « Il faut que tu m'enterres face à l'est, » dit-il, assis comme un guerrier. « T'es pas un guerrier. » Son père était assis, attiré sur la cigarette qu'il tenait du bout de ses doigts maigres, puis il la lança par-dessus la rambarde. Il se leva, tendit le bras pour prendre la bouteille qu'il porta à sa bouche, avala deux gorgées d'un coup sec, puis il jeta aussitôt la bouteille par-dessus la rambarde. Il se retourna vers le garçon, tituba un peu, mais il posa une main sur la table pour se stabiliser et regarda son fils les yeux mi-clos. « Je l'ai été autrefois. Faut que je te raconte ça. Faut que je te raconte plein de choses. Comme ça, tu veux marcher et parler du bon vieux temps ?» C'était pas le bon vieux temps. N'empêche qu'il faut que tu écoutes ça quand même. C'est tout ce que j'ai à te donner. Franck va accepter de l'accompagner et la suite du livre, c'est justement cette marche vers le sommet à travers des paysages magnifiques, sauvages, de la Colombie-Britannique. Mais ce sera surtout pour Franck la découverte de son histoire et de celle de son père, ses origines indiennes. Il fait ainsi découvrir à son fils un monde que le garçon n'avait jamais vu, une histoire qu'il n'avait jamais entendue. Une très belle histoire entre le père et le fils, et pas seulement entre le père et le fils, il y a d'autres personnages aussi. Voilà, je vous invite très vivement à lire ce livre, très beau livre, « Les histoires s'éteignent à l'aube » de Richard Vagamez. Richard Vagamez est un écrivain canadien d'origine indienne. Un indien, c'est pas simplement d'origine, il est indien. Voilà, merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt. All I've done so much wrong, but please give me strength to care.